Bonjour à tous.
Il
Bonjour.
y a des questions. Demande aux journalistes de poser des questions à distance, de nous faire parvenir leur
OK.
présence via l'adresse
On
courriel
ferme le
qui est
téléphone.
là.
On le ferme?
On le ferme.
Merci. Bonjour à tous. Merci, Madame la mairesse, Monsieur Caron, d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous souhaitons faire le point sur la situation montréalaise et vous présenter les mesures additionnelles qui seront implantées spécifiquement pour l'agglomération de Montréal pour faire face à la transmission communautaire que nous voyons et qui est bien soutenue à l'intérieur du territoire montréalais. Donc, en date d'hier, 21h, Montréal comptait 1361 cas. C'est 146 nouveaux cas depuis les 24 dernières heures. 83 personnes hospitalisées, 13 personnes aux soins intensifs, 6 décès. Et nous tenons, et je tiens personnellement à offrir mes sympathies à l'ensemble des familles et des proches des personnes décédées. Nous avons plus de 82 travailleurs de la santé touchés par le COVID-19, 17 résidents dans des résidences de soins de longue durée et de nombreuses éclosions dans plusieurs milieux de soins, plus d'une vingtaine, cumulant plus de 240 personnes. Ce qui est important de constater, c'est qu'en effet, plusieurs territoires montréalais, beaucoup centraux, sont plus touchés par la problématique. En date d'hier, nous avions 6 arrondissements qui comptaient plus de 50 cas. Côte-Saint-Luc, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Rosemont-Petite-Patrie, le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et La Salle. Et lorsqu'on, là maintenant, nous commençons à regarder les progressions, il y a quand même des quartiers qui avaient peu de cas qui maintenant ont une pente ascendante avec un plus grand nombre de cas, une progression. Anticique-Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Villeray. Lorsqu'on regarde ces données, ce que ça nous dit, c'est que oui, il y a plus de cas dans les quartiers centraux, mais la propagation et la transmission communautaire est soutenue et s'étend à l'ensemble de l'île de Montréal. Et donc, l'ensemble des mesures additionnelles qu'on va mettre de l'avant vont s'appliquer à l'ensemble des Montréalais. Je tiens aussi à dire qu'au cours des derniers jours, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 146 cas au cours des dernières 24 heures qui nous ont été déclarés. On a quand même au cours des derniers jours une certaine stabilité en termes du nombre de nouveaux cas qui nous sont déclarés. Le portrait que je vous donne est un portrait qui reflète ce qui s'est passé il y a 7 jours parce qu'évidemment les personnes symptomatiques ont dû aller faire leur test et le temps que ça nous soit déclaré, ça représente dans le fond l'éclosion d'il y a 7 jours. Par contre, on va continuer de suivre la situation, mais ce qu'on voit, ce n'est pas le nombre de nouveaux cas qui double à tous les 3 et 4 jours. Actuellement, on a quand même une certaine stabilité qu'on va continuer de suivre, une progression certaine, mais le nombre de nouveaux cas par jour nous semble se stabiliser depuis 3 à 4 jours. Encore aujourd'hui, près de 40 % des gens qui se présentent avec des cas sont des voyageurs et évidemment, plus de 42 % sont des personnes âgées de 50 ans et plus. Il ne faut pas négliger la tranche des 19-29 ans qui représente près de 20 % des cas et souvent avec des symptômes un peu plus légers. On demande évidemment aux jeunes de bien respecter les consignes puisque même avec des symptômes légers, vous pouvez être des vecteurs importants de transmission dans la communauté. Donc, comme je le disais, la transmission communautaire est bien implantée à Montréal, les chiffres le démontrent. Et ça touche l'ensemble du territoire montréalais. Donc, vendredi, l'état d'urgence local a été décrété et le directeur national de santé publique m'a demandé de regarder quelles étaient les mesures additionnelles à mettre de l'avant. Comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, nous ne sommes pas en train de fermer les ponts, nous allons pas mettre des barricades dans certains quartiers. Les mesures que l'on met en place doivent être graduelles et progressives et doivent être concordantes avec la situation épidémiologique. Et donc, les mesures qu'on ajoute sont vraiment dans un objectif de faire respecter les mesures de distanciation sociale, de faire respecter la fermeture de lieux publics et de commerces qui doivent, depuis déjà une semaine, être fermés et de nous donner des leviers pour faire respecter les ordonnances d'isolement des cas, des personnes sous investigation ou des personnes dans certains milieux de vie qui, actuellement, ne respectent pas les consignes d'isolement ou d'interdiction de visiteurs. Ce que nous demandons plus spécifiquement comme mesure additionnelle au SPVM, c'est premièrement d'accroître la vigie et la surveillance dans les quartiers par les policiers du SPVM. Pour nous permettre d'avoir des yeux, c'est déjà fait depuis de nombreuses semaines, mais maintenant avec des consignes plus précises et si le citoyen ou le commerçant ne respecte pas la consigne, maintenant il va y avoir un pouvoir de faire un rapport d'infraction et ultimement une contravention sera donnée à un individu ou à un commerce ou une entité morale. Je laisserai M. Caron vous préciser exactement comment ça va se dérouler. Évidemment, le SPVM va aussi nous soutenir dans l'émission d'ordonnances individuelles émises par la directrice de santé publique pour des personnes qui ne respectent pas l'isolement, des cas, comme je le disais, ou des personnes sous investigation ou des personnes qui vivent dans certains milieux de vie et qui ne respectent pas les consignes de milieu de vie. Comme je le disais, quand la santé publique vous appelle parce que vous êtes un cas, vous devez collaborer avec la santé publique pour l'enquête. Et si nous n'avons pas de retour d'appel de votre part, il est clair qu'on vous aviser une fois, mais la deuxième fois, vous risquez d'avoir une visite à domicile par le SPVM. La mise en place de ces mesures va aussi nous permettre de voir jusqu'à quel point la population montréalaise respecte, dans le fond, les ordonnances et les recommandations qui sont émises maintenant depuis plus d'une semaine par le directeur national de la santé publique. Et c'est à la fois en suivant la situation épidémiologique de Montréal, mais aussi en regardant jusqu'à quel point la population est compliante aux mesures de distanciation sociale, que nous allons voir s'il est nécessaire d'ajouter des mesures additionnelles qui pourrait être de l'ordre de restreindre, dans le fond, les déplacements sur les voies publiques, donc à l'intérieur de Montréal, donc à l'intérieur des quartiers montréalais, ou même au niveau des déplacements interurbains avec les villes voisines. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas à ce point et nous allons donc évaluer la situation de jour en jour. Nous sommes confiants qu'avec l'intensification et ces nouveaux leviers qu'on a, nous allons pouvoir, dans le fond, régler les quelques cas d'exception que nous voyons sur le territoire montréalais, des gens ou des groupes qui ne respectent pas les consignes. Et en terminant, je veux vraiment remercier les Montréalais parce que l'ensemble des Montréalais qui respectent actuellement les consignes. Je pense que la norme sociale est bien installée et c'est vraiment ces mesures-là sont vraiment pour les récalcitrants. Je crois que globalement, nous sommes tous sur la bonne voie en termes d'application de la distanciation sociale et plus on respecte les consignes, moins on aura à contraindre les gens. Mon souhait n'est certainement pas d'amener les gens à ne plus pouvoir aller se marcher dehors ou faire du jogging. Je pense qu'on doit se garder cette zone de liberté dans une période difficile comme celle que l'on vit aujourd'hui. Donc, je rappelle quelques consignes, s'il vous plaît. Si vous avez des symptômes qui sont des symptômes qui ressemblent à la grippe, au rhume, mal de tête, température, toux, on vous demande de rester à la maison. Si vous avez de la difficulté à avoir un test laboratoire, restez à la maison 14 jours. Ne prenez pas de chance. C'est pour nous, déjà, ça veut dire qu'on brise la transmission. Si vous êtes en attente d'un résultat de dépistage, si vous êtes de retour de voyage, vous devez aussi rester à la maison.
Et je tiens à saluer, bien sûr, Monsieur Caron, qui est le directeur du service de police de la ville de Montréal, ainsi que Monsieur Liebman, qui est pas très loin, qui est le coordinateur du centre de coordination des mesures d'urgence à la ville de Montréal. Alors, je pense qu'on peut tous se dire aujourd'hui que la vigilance, elle est de mise parce que c'est vraiment, c'est un combat de longue haleine. Ce n'est pas un sprint, mais bien un marathon dans lequel on s'est engagé il y a déjà quelques semaines. Et il est temps maintenant de passer à une nouvelle étape et c'est entre autres pour cette raison que la Ville de Montréal a décrété l'état d'urgence ce vendredi et qu'aujourd'hui même, nous avons reconduit l'état d'urgence pour encore 5 jours pour la Ville de Montréal, mais également l'agglomération de Montréal. Alors, je tiens à le mentionner, le Dr Drouin le mentionnait elle aussi, à quel point les Montréalais et les Montréalaises font preuve de solidarité, d'écoute, de compréhension. Je vous dirais que la très grande majorité de la population se plie écoute les recommandations et les applique. Et vraiment, je les remercie. Mais étant donné que la situation évolue d'heure en heure, ben je tiens à dire à la population que nous avons un plan qui est clair et qu'on suit étape par étape. Et c'est ce qui était dit précédemment, à savoir qu'il n'est pas question à ce moment-ci de boucler un arrondissement, un quartier ou de fermer des ponts. Mais le plan, on le suit et on le suit de très près. Notre but, en fait, aujourd'hui et au cours des prochains jours, c'est vraiment de protéger la collectivité tout en minimisant les impacts sur les libertés individuelles. C'est vraiment de ça dont il est question. On en demande beaucoup à la population et, comme je disais, la grande majorité se conforme, mais on doit continuer à renforcer ce message-là auprès de toute la population. Il y a une infime minorité de récalcitrants pour différentes raisons et donc, aujourd'hui, les autorités publiques ont pris le chemin, vont continuer de prendre le chemin du dialogue, mais bien sûr, si c'est nécessaire, le service de police pourra procéder à une autre étape. Et bien sûr, je vais laisser M. Caron nous parler des différentes mesures qui seront mises en application à ce moment-là. En même temps, on sait qu'il y a des points plus chauds à travers la ville, des endroits qui semblent être des foyers plus importants. Alors, c'est très important d'écouter les directives, comme je disais, de rester chez soi, de rester dans son coin. Si on a des courses à faire, bien, on va faire des courses dans le quartier. On y va une personne à la fois. On minimise tout rassemblement d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis d'aller dans les commerces locaux, bien, la bonne chose là-dedans, c'est que ça encourage également le commerce local. Et je vous dirais que les commerces qui sont ouverts ont bien besoin, qui travaillent d'ailleurs très fort. Et je salue tous ceux et celles qui sont dans les services essentiels, entre autres au niveau de l'approvisionnement en nourriture, les pharmacies. Je les remercie de leur travail. Merci d'être là. En terminant, je voudrais mentionner que depuis vendredi soir, lorsqu'on a décrété l'état d'urgence à 16 heures, il y a des différentes opérations qui se sont mises en branle pour soutenir la population itinérante. C'est une des raisons qui, je vous le rappelle, nous a motivés à aller plus loin parce qu'on sentait que les besoins étaient grands et que les ressources dont on disposait étaient plus limitées. Alors, tout d'abord, il y a deux centres de jour qui ont été ouverts. Un premier vendredi, le deuxième le samedi matin. Le premier, c'est au Square Cabot et le deuxième à la place Émilie-Gamelin. Et ce n'est qu'un début parce qu'en fait, on en a deux, mais on veut en avoir un total de cinq. Mais je tiens vraiment à saluer nos partenaires. Le Centre Résilience, c'est là où il y a le Square Cabot qui a été les premiers à lever la main en nous disant on a besoin de ces ressources-là, mais j'ai également à remercier le personnel de la Croix-Rouge qui, dès le soir même et le lendemain matin, était là, sur place, entre autres pour donner de la nourriture aux personnes en situation d'itinérance. Alors, un grand merci à toutes celles et ceux qui mettent la main à la pâte et encore une fois, je demande aux Montréalais et Montréalaises de faire preuve de solidarité et bien sûr d'écouter les règles. Comme ils le font si bien depuis plus de deux semaines déjà.
Lente, bonjour à vous tous. Alors, merci beaucoup. Écoutez, la SPVM, depuis déjà le début du premier décret, participe avec les différentes autorités, que ce soit Sécurité civile ou la Santé publique. Alors, la SPVM est prêt. D'ailleurs, vous savez, depuis le 23 mars dernier, on a fait des modifications au niveau de nos horaires de travail pour s'adapter aux besoins, évidemment, de la situation qui prévaut. Alors, je tiens à remercier la population de Montréal, l'agglomération de Montréal, qui est présent, respecte quand même dans son ensemble, l'ensemble des mesures qui sont ordonnées dans les différents décrets de la santé publique. Alors aujourd'hui, j'annonce que l'SPVM, évidemment, est prêt. Évidemment, on collabore avec la santé publique, avec la sécurité civile. M. Lindman, bonjour. Alors évidemment, chaque scénario est regardé, est étudié pour évidemment répondre aux besoins de la santé publique dans le cadre de cette pandémie-là. Alors, nous savons exactement quoi faire, comment répondre, évidemment, pour les mesures à prendre en fonction de la demande de santé publique selon l'analyse qu'ils font de la situation sur l'île. Alors, nous avons du personnel presque doublé à chaque jour sur le territoire pour s'assurer du respect des mesures. Nous avons aussi des équipes spécialisées qui ont été dégagées de leurs horaires de travail normal pour supporter les postes de quartier, pour répondre à des appels. Alors, j'encourage encore les citoyens, évidemment, à nous dénoncer des situations anormales qu'ils rencontrent dans leur quartier. C'est sûr qu'il y a des familles qui vivent en plusieurs membres dans un même lieu de travail, même lieu de résidence. Alors, si c'est une situation qui est anormale pour eux, on leur demande de nous signaler au 911 pour qu'on puisse intervenir. Alors, on a des policiers qui sont affectés à la réponse aux appels spécifiques pour les cas de non-respect ou perception de non-respect du décret gouvernemental. Alors, on tient à ce que la population poursuive encore ces appels-là. Évidemment, on a des équipes aussi qui interviennent auprès des personnes vulnérables, que ce soit les personnes itinérantes. Alors, on a collaboré avec les autorités municipales à la mise en place des différents sites depuis le décret de la situation d'urgence de vendredi. Et nos équipes continuent à collaborer également avec ces personnes-là, les gens des autorités municipales. Il y a aussi, évidemment, on a sensibilisé notre personnel à tout signe de vulnérabilité d'une clientèle, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des enfants, alors d'être plus vigilant. Et on est en contact avec les différents organismes du milieu pour s'assurer que les gens qui vivent des cas d'isolement ne sont pas victimes de violence. Alors, on a sensibilisé notre personnel à ce sujet-là et on collabore également avec les différents organismes qui sont sur le territoire pour s'assurer que les gens sont en sécurité. Tous les appels des citoyens sont répondus par nos policiers. Alors, ça varie d'une journée à l'autre. On peut avoir une centaine d'appels, 200 appels. Alors, on est présent. Je tiens à remercier d'ailleurs le personnel policier, les policiers, le personnel du 911, notre personnel de soutien aux opérations, le personnel civil, qui font un excellent travail depuis le début de cette pandémie-là. Et également, les gens de la santé. Alors, les gens de la santé collaborent énormément. Alors, tous ensemble, je pense qu'on a un défi d'équipe, un défi ensemble de faire face à cette pandémie-là. La mesure qu'on annonce aujourd'hui, évidemment, les policiers interviennent sur des appels, vont aviser les personnes du respect ou du non-respect. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est, depuis le début, d'avoir la collaboration. Dans le cas de non-collaboration, les policiers procéderont à la rédaction d'un constat, pas d'un constat, d'un rapport d'infraction abrégé, qu'on appelle, alors un rapport d'infraction abrégé, avec les circonstances dans lesquelles se produit l'événement ou la situation, pour que le directeur des poursuites pénales et criminelles puisse, par la suite, émettre des infractions en fonction du constat qui a été fait. Alors, c'est un peu la mesure qu'on prend aujourd'hui. Ce qu'on demande, évidemment, comme le Dr Drouin disait tantôt, on souhaite que les gens collaborent comme ils font depuis le début, sauf que, évidemment, la prochaine étape, s'il y a non-collaboration, il y aura des rapports d'infraction qui seront rédigés. Alors, c'est un peu ce que je voulais. Bon, évidemment, on compte sur la collaboration des citoyens pour poursuivre cette situation-là.